Avant de laisser la place à la pétillante Mathilde, je voudrais remercier la COCOF qui apporte son soutien à la réalisation de la campagne J'aime mon métier. La COCOF, c'est la Commission communautaire française. C'est l'institution qui agrée et réglemente une série de politiques liées au quotidien des Bruxelloises et Bruxellois. La COCOF, elle contribue au soutien des acteurs de terrain, de la santé et du social notamment, mais s'implique aussi particulièrement dans la valorisation de leurs différents métiers. La COCOF est par exemple très engagée dans la discussion des accords dits du non-marchand à Bruxelles. Le dernier accord date de décembre dernier. Il a été doté d'un budget historique de 57 millions d'euros qui prévoit notamment de soutenir l'attractivité de l'emploi et une revalorisation salariale et des conditions de travail. Je peux déjà vous dire qu'avec nos équipes de rédaction, nous sommes en train de digérer, analyser, décrypter et vulgariser ce fameux accord pour vous en donner toutes les clés dans les prochains mois. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vincotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Dans l'immédiat, on retrouve derrière notre micro Mathilde, ergothérapeute. La jeune femme de 25 ans accompagne des patients en perte d'autonomie dans leurs gestes quotidiens. Prendre une douche, ouvrir un pot de confiture, monter dans le bus, autant de gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui s'avèrent pourtant très compliqués pour les personnes diminuées par une maladie ou un accident. Mathilde les accompagne avec un dynamisme, une créativité et un investissement personnel impressionnant. Au plus proche de ses patients en neurologie, à l'hôpital et en ambulatoire, elle s'implique également dans la recherche et s'engage dès qu'elle le peut pour faire rayonner sa profession. Avec une fraîcheur qui fait du bien, Mathilde assure aujourd'hui sa mission de porte-parole d'une profession trop méconnue, pourtant passionnante et au cœur de nombreuses interactions paramédicales. On met le cap sur une rencontre pétillante et pleine de bienveillance. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Comment tu te sens ?
Bien, merci.
Je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui.
Comme tu l'as dit, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans et je travaille depuis presque 3 ans comme ergothérapeute au sein des cliniques universitaires Saint-Luc et je viens de Nivelles.
Alors tu es la première personne qu'on interviewe qui est en début de carrière. Si tu devais faire un premier bilan sur ta jeune carrière, tu nous dirais quoi ? Tu aurais envie de changer quelque chose ou de prendre une nouvelle direction ?
J'ai toujours remis beaucoup de choses en question, sauf le métier que j'ai choisi de faire. J'ai jamais voulu faire autre chose et à l'heure actuelle, je me vois vraiment pas faire autre chose. Bon, peut-être que je serais mieux ailleurs, mais finalement, j'arrive même pas à me le dire. Je me suis déjà dit, si j'avais pu créer un métier, j'aurais créé l'ergo. Et c'est vrai, je le dis pas juste comme ça. C'est dingue, hein.
Ton métier d'ergothérapeute, comment est-ce que tu pourrais le définir ?
L'ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui travaille dans le paramédical et qui accompagne des personnes qui ont perdu au niveau de leur autonomie et de leur indépendance dans vraiment ce qui concerne leur activité du quotidien. On intervient dès le plus jeune âge dans les écoles spécialisées, on travaille en psychiatrie, on travaille en gériatrie, en maison de repos, il y a beaucoup d'ergos. Dans les centres de revalidation, beaucoup, auprès de patients qui ont des difficultés orthopédiques ou neurologiques. Il y a beaucoup d'ergos pour le moment s'occuper à se promouvoir en soins palliatifs. Mais une ergo qui travaille en soins palliatifs, elle ne va pas avoir comme objectif de, promouvoir l'autonomie du patient puisqu'on est dans un projet de fin de vie. Et donc là, on va surtout viser tout ce qui est confort, positionnement, pouvoir accompagner la personne et ses proches vers une fin de vie de la meilleure qualité possible. Et toujours en travail d'équipe, évidemment, à chaque fois que je mentionne un objectif, on ne peut jamais l'atteindre seul. C'est toujours en collaboration avec au moins une autre discipline, selon moi.
Ok. C'est quel type de public ?
On intervient auprès des personnes qui ont des difficultés à réaliser ce qu'ils doivent faire au quotidien. Ça peut être autant des choses qui concernent les soins personnels, donc des choses assez primaires comme pouvoir manger, se laver, s'habiller, etc. Puis parfois des choses plus spécifiques comme l'utilisation du téléphone, du clavier d'ordinateur. C'est toujours très fort personnalisé en fonction des besoins de la personne.
Quels sont les traits de caractère qui, d'après toi, sont essentiels pour être ergothérapeute ?
De l'empathie, de la créativité, aimer le contact avec les personnes.
Tu parles de créativité, est-ce que c'est la créativité du coup dans la façon de développer tes exercices ou dans la façon d'accompagner le patient ? C'est à quel niveau ?
En fait, quand je parle de créativité, c'est parce que nous, quand on accompagne nos patients en tant qu'ergothérapeute, on les fait très fort participer par rapport à l'élaboration et à la fixation des objectifs de traitement. J'ai eu une fois un patient qui avait comme objectif de pouvoir reprendre un de ses loisirs qui était la pêche. Et ça faisait partie d'un de ses objectifs après plusieurs mois après son AVC. Donc, il en avait déjà travaillé tout un tas d'autres. Et là, c'était l'objectif que lui voulait arriver à atteindre. Et après, avec cet objectif, nous, en tant qu'ergothérapeutes, c'est là qu'on doit mettre un peu notre créativité en œuvre en se disant, OK, quel exercice est-ce que je vais pouvoir proposer à mon patient pour finalement atteindre cet objectif-là ? Donc, c'est à nous aussi de décortiquer avec le patient toutes les tâches et tous les mouvements et que ça soit aussi cognitif, puisque pêcher, c'est pas seulement envoyer la corde dans l'eau, mais c'est aussi préparer, penser à planifier, à anticiper, à acheter tout ce qu'il faut, etc. Et puis, proposer des activités qui vont entraîner les mêmes mouvements que ce qu'il doit faire quand il devra aller pêcher, même s'il me dit qu'il doit installer sa tente, ben ok, moi en tant qu'ergo, je vais devoir être la plus créative possible pour soit me dire ok, je ramène une tente ou je demande une tente à prêter ou je vois s'il y en a une et on va faire des exercices dehors, etc. J'ai déjà eu un patient qui avait comme objectif de pouvoir remettre ses draps, mais à l'hôpital, on n'avait que des draps à une personne. Mais moi, un jour, j'ai dit « Ok, je prends mes draps de chez moi, quoi. » Donc, je suis revenue à Saint-Luc avec mes draps. Mes collègues étaient là « Ça va, Mathilde, tu vas faire tout ici ?» Mais voilà, ça, c'est typiquement, je trouve, des situations dans lesquelles on doit faire preuve de créativité pour proposer aux patients des exercices, des activités qui ressemblent le plus possible à ce qu'eux vont vivre dans leur situation.
Alors, tu vas nous en dire un peu plus sur ton métier, mais on sent déjà toute ton implication auprès de tes patients. C'est un métier que tu voulais faire depuis toute petite ?
Non, c'est pas un métier que je voulais faire depuis toute petite. J'étais en rhéto et je pense que je me cherchais encore à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a poussée à faire du bénévolat dans l'hôpital dans lequel elle travaillait. Et à ce moment-là, j'ai suivi une ergothérapeute en gériatrie, justement. Et je pense que cette personne a fait un peu le déclic dans ma tête. C'était pas du tout ce que j'aurais pensé faire étant petite.
Et qu'est-ce qui t'attirait quand tu as eu ce premier déclic ?
Ce qui m'a attirée, je pense, c'est le fait que ça soit très fort en contact avec la personne, le patient, mais aussi avec le reste de l'équipe, parce que c'est clairement un métier dans lequel on est forcé à collaborer avec en premier le patient, mais aussi avec tout le reste des paramédicaux et du personnel aussi médical et nursing qui va suivre le patient. Donc ça, le fait que ça soit vraiment un métier de contact, ça m'a fort intéressée. C'est quelque chose que moi j'apprécie en plus, c'est vraiment l'ambiance hospitalière, la gestion hospitalière, le fait qu'il y ait une institution qui soit là pour soigner les gens et que tout le monde soit coordonné pour être aux soins. C'était quelque chose que moi j'appréciais vraiment.
C'est un cursus qui se déroule en 3 ans, dans quelques hautes écoles en Belgique. Mm-hmm. Toi tu as fait tes études où ça ?
Moi j'ai étudié au Parnasse, ISEI, sur Alma, à Bruxelles. Okay.
Et quel est le souvenir que tu gardes de ces 3 années ?
J'ai adoré ma formation. J'ai trouvé qu'on avait eu un très chouette accompagnement de la part de nos professeurs. Et puis, c'est aussi un moment où, en plus d'apprendre le métier d'ergothérapeute, on apprend aussi à mieux se connaître soi, puisque voilà, on est confronté à toutes des situations qui nous renvoient à notre trait de personnalité, nos forces, nos limites, etc. Donc moi, ça a été une découverte du métier, et en même temps de moi-même, et puis des chouettes connaissances, c'est de l'étude, de la rigueur et des stages qui ne sont pas toujours évidents, mais moi j'en garde globalement un bon souvenir.
Tu avais fait tes stages dans quel type d'institution ?
Mais on est amené à rencontrer justement différentes institutions et surtout à différentes populations. J'ai fait des stages autant dans des écoles spécialisées pour l'accompagnement d'enfants souffrant d'un handicap que dans des milieux hospitaliers, que quand, dans des centres de revalidation. Et j'ai aussi eu la chance de faire un stage en France, à Montpellier. J'étais vraiment aussi intéressée par la gériatrie et surtout par l'accompagnement des personnes âgées à domicile, ce qui est un peu moins développé pour le moment en Belgique. Et donc, j'étais contente d'aller en France pour suivre une équipe uniquement d'ergothérapeutes qui accompagnait les personnes souffrant la maladie d'Alzheimer dans leur domicile en vue de le maintenir et d'éloigner le plus possible l'institutionnalisation de ces personnes. Ça, j'ai vraiment aimé comme stage.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la neurologie ?
J'ai toujours apprécié la neurologie et les patients adultes. Même si c'est super différent, évidemment, d'accompagner une personne âgée ou un enfant, mais j'aime bien le contact avec la personne adulte. Et j'ai eu la chance d'avoir une ancienne prof que j'adore et qui est maintenant une grande amie qui m'a envoyé une proposition d'emploi. Et puis j'ai directement postulé, j'ai eu la chance d'avoir le poste et de là j'ai commencé en neurologie auprès d'adultes et j'y suis toujours.
Ce sont des gens qui ont eu des accidents, style AVC ou autre, ou ce sont des patients qui ont une maladie comme une maladie Alzheimer, Parkinson, etc.
Sont les patients ? En tout cas, au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, nous, les ergothérapeutes, on suit une grande majorité de patients, comme tu dis, qui a souffert d'un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Mais on a aussi toute une autre partie qui ont eu soit un traumatisme crânien ou auprès desquels on détecte une tumeur cérébrale qui est ensuite opérée, puisque je travaille en neurologie et en neurochirurgie. Et puis aussi, comme tu l'as expliqué, plus des maladies de type Parkinson, sclérose en plaques, etc. Et c'est ça aussi que moi j'apprécie dans la neurologie, c'est la diversité des pathologies et des personnes qu'on rencontre. Même deux personnes qui souffriraient d'un AVC auraient des symptômes et une revalidation tout à fait différente. Et moi, je pense que c'est ça aussi que j'aime bien dans mon métier, c'est que malgré le fait qu'il y a des aspects qui peuvent être routiniers, chaque suivi est totalement différent, chaque suivi doit être adapté, réfléchi en équipe avec le patient. Et je pense que c'est ça qui me plaît dans la neuro.
Toi qui côtoies beaucoup de victimes d'AVC, quels sont typiquement les gestes du quotidien qui sont super compliqués à retrouver ?
Eh bien, tous les gestes qui doivent être faits à deux mains. Une personne qui présente un trouble moteur, tu dois te dire, c'est à chaque fois que tu utilises ta main droite, tu seras en difficulté. Donc, mettre une boucle d'oreille, écrire, prendre une feuille, fermer une gourde, envoyer un SMS, tenir un micro, se mettre du mascara, enfin, utiliser un clavier d'ordinateur, tous les gestes du quotidien dans lesquels tu utilises ta main droite, tu seras en difficulté. Et c'est ça, parfois, on se rend pas compte, en fait, à quel point on utilise tout le temps la main droite. Moi, je mets ma main dans les cheveux, c'est avec ma main droite. Enfin, je ne serais pas du tout habituée à faire avec la main gauche. Donc, on peut réapprendre à faire des gestes avec l'autre main. Et puis, c'est tous les gestes qu'on utilise en bimanuel. Après, dans la meilleure des situations possibles et dans la plupart des cas, les personnes ont un pronostic de récupération. Et donc, ils vont s'améliorer dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et il y a des difficultés qui ne vont plus devenir difficiles. Et ça, c'est super chouette. Mais il y a des personnes qui gardent des difficultés, des séquelles à vie de leur AVC. Mais parfois, c'est à nous de recadrer en disant non, le Mont Everest, aller faire du ski ou de l'escalade, ça va être chaud. Par contre, on peut retrouver des sports dans lesquels vous allez pouvoir reprendre du plaisir.
Et donc là, c'est ton premier boulot. Est-ce qu'il y a des aspects du métier auxquels tu t'attendais pas en arrivant sur le terrain ?
Oui, plein. Parce que malgré le fait qu'on a la chance d'avoir beaucoup de stages pendant notre formation, on continue beaucoup à se former sur le terrain. Et c'est vrai que quand on commence à travailler, c'est souvent un moment stressant, je trouve, parce que ben, on se rend compte de toutes les lacunes et on se rend compte aussi du niveau d'expérience et de connaissance des collègues. Et là, souvent, on se dit « Ouais, ça va pas le faire. » Et puis, au final, ça le fait quand même. Et on apprend beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup plus appris depuis mes trois dernières années que mes trois précédentes années, puisque ça fait trois ans que je travaille.
Grâce à quoi ? Grâce au contact avec les patients ? Grâce à l'équipe pluridisciplinaire ? Grâce à tes collègues ?
Beaucoup grâce aux patients, parce que voilà, on pratique, on apprend avec eux, mais aussi grâce à les collègues. En tout cas, moi, dans mes équipes, j'ai de la chance d'avoir vraiment beaucoup de collaboration. On essaye de s'échanger les informations. On apprend beaucoup du métier des autres aussi. Moi, je me souviens des débuts, je me sentais pas légitime de faire ce que je faisais. surtout quand je voyais les patients et la difficulté dans laquelle ils étaient. Et moi, je me disais, mince, ben, je préfère qu'ils soient pris par mes collègues qui s'y connaissent mieux et qui sont beaucoup plus au taquet. Donc vraiment, je pense un gros manque de confiance en moi. C'est beaucoup de remise en question aussi. Et du coup, c'est pas des moments faciles. Mais bon, voilà, on apprend et c'est ça aussi qui est chouette, je trouve, dans le métier, c'est de se remettre en question, d'apprendre tous les jours de soi, des autres, collègues, des patients.
Et tes collègues, justement, c'est quel genre de métier qui sont dans cette équipe pluridisciplinaire ?
Nous, on travaille en étroite collaboration avec les kinés, puis beaucoup avec les médecins de médecine physique et les neurologues, et puis avec les logopèdes, les neuropsies, les psychologues, etc. C'est aussi un énorme travail avec l'équipe soignante, infirmière, aide-soignante, etc.
Et concrètement, quels sont les outils que tu vas utiliser pour accompagner ton patient ? Comment est-ce que tu travailles ?
Alors, c'est très différent des deux services dans lesquels je travaille, mais en tout cas pour les soins aigus, moi, j'évalue auprès du patient les séquelles que je prends de l'AVC, puisque c'est la pathologie la plus fréquemment rencontrée, mais les séquelles en lien avec leur niveau d'autonomie. Donc, par exemple, une personne va pouvoir rencontrer tout un tas de symptômes à la suite de son AVC. Par exemple, des difficultés au niveau du langage. Ça va surtout être la logopée, des difficultés au niveau des troubles neuropsychologiques, donc de concentration, de mémoire, d'attention, de double tâche, toutes des choses comme ça. Ça, c'est plus les neuropsychologues. Les kinés vont surtout s'occuper de l'aspect moteur, l'équilibre. Et nous, les ergothérapeutes, on va dire, OK, eh bien, avec tout ça, qu'est-ce que la personne sait encore faire ou ne sait plus faire ? S'habiller, se déplacer, se tenir debout, pouvoir aller à la douche, pouvoir se brosser les dents, faire tous les gestes de base. Et donc, moi, en tant qu'ergothérapeute, je vais avec le patient, je le stimule. Et à ce moment-là, j'évalue ce que la personne est encore capable de faire ou ce qu'il va falloir travailler, si la personne a besoin beaucoup d'aide ou si elle arrive à prendre des initiatives ou toutes des choses comme ça de manière très concrète. Et puis après, on fait un feedback à l'équipe en disant, OK, cette personne, elle sera en capacité de rentrer chez elle ou non, cette personne, ça va pas, il faut qu'elle aille en revalidation. C'est toutes des discussions où on met en commun les observations de chaque discipline.
Et concrètement, tu fais quoi ? Tu fais tous ces mouvements avec lui ?
On travaille avec eux pour leur réapprendre les gestes du quotidien. J'ai aussi accompagné une personne plus jeune qui souffre d'une sclérose en plaques, mais qui vient d'être diagnostiquée. Et à cause de cette maladie, elle n'arrive plus du tout à, par exemple, utiliser ses deux mains et le bout de ses doigts. Et donc, il y a tout plein de gestes du quotidien qu'elle n'arrive pas à faire. Par exemple, utiliser ses couverts pour couper sa viande, mettre ses lunettes, mettre ses boucles d'oreilles, faire ses cheveux, etc. Et donc, nous, c'est tous des gestes qu'on va réentraîner avec elle par des mises en situation. Donc, concrètement, avec elle, devant la glace, on essaye de voir comment est-ce qu'elle arrive à faire, comment est-ce qu'elle pourrait faire.
C'est assez physique, finalement, comme boulot.
Mais ça peut être physique. Ouais. Surtout quand les patients ont une dépendance assez sévère ou, par exemple, ils sont dépendants de personnes pour se mobiliser dans leur lit, se mobiliser pour se mettre assis, pour se tenir assis, etc. Alors là, on doit souvent être au taquet, idéalement être accompagné d'un collègue. On travaille aussi beaucoup en collaboration avec les kinés pour assurer si c'est des soins plus physiques.
Là, tu es dans un secteur qui, au quotidien, ne doit pas être évident. Comment est-ce que tu vis la difficulté de voir des gens en souffrance ?
J'ai envie de dire que je la vis bien, entre guillemets. J'ai dû apprendre ça, je pense, justement au début et pendant les stages, à pouvoir mettre de la distance par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on suit au boulot, à l'hôpital, et puis essayer de faire la part des choses et pas y penser tout le temps, parce que c'est ça aussi avec nos métiers, je trouve, c'est qu'on peut très facilement se sentir très très impliqué pour le patient. Les patients comptent aussi beaucoup sur nous.
Et ton quotidien, malgré le fait que tu travailles dans un secteur en souffrance, clairement, tu le considères comme joyeux, comme...
Moi, je le considère comme joyeux, puisque malgré qu'on accompagne des personnes qui sont en souffrance morale, en souffrance physique, c'est parfois des personnes qui ont des douleurs avec lesquelles ils doivent vivre au quotidien, mais nous, on est là pour améliorer leur qualité de vie. On n'est pas des héros et on n'est pas... Parfois, ils pensent qu'on va leur apporter des solutions toutes faites, et c'est vraiment pas le cas, mais on est là pour les accompagner, en tout cas, envisager comment on pourrait améliorer ce qu'ils vivent comme étant difficile. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un hyper important pour eux, pour nous. Donc, ils sont en souffrance et parfois, c'est difficile parce que c'est vrai que c'est beaucoup de souffrance. Mais après, nous, on est là pour les accompagner à la limiter cette souffrance et à l'améliorer.
Oui, à l'améliorer, évoluer dans le bon sens, justement. Tu as une anecdote à partager par rapport à ça. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit, ah là, mon boulot, il sert quand même à quelque chose?
C'est parfois des mini-victoires quand on arrive à améliorer le niveau d'autonomie de la personne et de jour en jour, ben, voir qu'elle progresse et qu'elle a de moins en moins besoin de nous, par exemple à la douche ou pour s'habiller, etc. Enfin, pour nous, c'est vraiment des victoires et c'est souvent des patients, quand on les revoit plusieurs mois après, ils disent « Ah, Mathilde, c'est toi, je me souviens, tu m'avais forcé à aller à la douche le premier jour, c'était difficile, mais t'as bien fait !» Je pensais que j'allais jamais avoir y retourner. Donc ça, c'est chouette. C'est un peu des mini-victoires. Et puis parfois, on a aussi des patients qu'on accompagne sur du plus long terme et où on a des vachement chouettes projets de réinsertion où la personne arrive à retrouver, malgré son accident de santé ou son problème de santé, mais une vie la plus satisfaisante possible avec des projets qui se concrétisent. Et donc ça, c'est chouette aussi. Ou alors non, j'avais un patient, c'était chou. Il avait été... au restaurant pour la première fois depuis après son AVC, et c'était quelque chose dont on avait discuté plein de fois parce que c'était quelqu'un qui est mal au restaurant, mais depuis son AVC, qui avait jamais osé retourner parce que c'est difficile pour lui justement d'utiliser les couverts, etc. Et donc, un moment assez gênant quand on se retrouve au restaurant avec des amis et il m'avait dit qu'il avait surtourné, il était là, bon, j'ai pris des moules parce que comme ça je devais pas couper, il m'expliquait et tout, et moi j'étais là, mais c'est bien, c'est cool, c'est trop bien et tout, ça c'est chouette quoi. Moi j'adore.
C'est ça qui te nourrit au quotidien dans ton travail?
Pas que, mais entre autres. Ce qui me nourrit au quotidien, c'est mes collègues, les interactions avec les patients, leur joie de vivre et ce que nous, on essaye aussi de leur apporter comme joie de vivre. On a un contact social important. En plus, là, la crise du Covid, ça n'a pas aidé puisque c'était des gens qui ne nous voyaient plus que nous. Donc, moi, ça, j'adore. En tout cas, le contact avec mes patients, c'est hyper important pour moi. Hein, je vois pas comment une ergo pourrait travailler sans que ça soit important pour elle ou pour lui. Mais il y a plus de filles quand même.
On entend beaucoup parler du mal-être hospitalier ces derniers mois, évidemment, surtout depuis le Covid. Il y a beaucoup de professionnels qui veulent quitter les hôpitaux. Et toi, tu veux y rester.
Ouais.
Est-ce que tu es complètement folle ou est-ce que tu n'es pas la seule et c'est le moment de le crier haut et fort que non, il n'y a pas tout le monde qui veut partir des hôpitaux?
Ben non, il n'y a pas tout le monde qui veut partir des hôpitaux. Après, je pense que chaque personne et chaque discipline vit la situation différemment. J'ai des collègues qui vont moins bien, qui vont pas bien, qui quittent, qui vont ailleurs pour un autre hôpital ou pour une réorientation professionnelle. Mais moi, pour le moment, je me sens pas concernée par ça. Après, j'ai tendance aussi un peu à idéaliser mon boulot quand j'en parle. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est souvent difficile. On travaille, je trouve, beaucoup. On nous en demande beaucoup, ben, pour le soin du patient. Donc, la charge de travail est organisée de telle manière à ce que, par exemple, si on décide de prendre congé, notre charge de travail, elle va pas être annulée, mais elle va être répartie sur la charge de travail des collègues. Ça, je pense que c'est difficile sur du long terme à vivre. Mais moi, j'aime trop pour le moment. Ce que j'aime bien surtout, c'est le challenge de se dire, bah oui, que c'est pas facile, mais de toute façon, on peut pas tous partir des hôpitaux, sinon comment on va faire?
Tu t'es lancée dans un master en santé publique et c'était avec quel objectif derrière tout ça?
Le master, on le fait avec beaucoup de personnes qui le font, comme tu dis, avec un objectif précis de devenir chef infirmier, d'ouvrir sa maison médicale, de devenir directeur de maison de repos. Et moi, je le fais surtout pour continuer ma formation. Et à la sortie des 3 ans en ergothérapie, je sentais que oui, j'avais envie de commencer à travailler, mais j'avais surtout envie d'en apprendre plus et d'en apprendre plus sur la santé publique, la gestion hospitalière et voilà. J'ai adoré le master et je vois que à l'heure actuelle, il m'aide pas en tant qu'ergothérapeute auprès de mes patients. Par contre, il m'aide à, je trouve, avoir une vision plus globale et macro, que ça soit de la population belge, mais aussi de l'hôpital. Moi, en tout cas, il me permet de m'ouvrir des portes que je pense pas que je les aurais ouvertes sans le master.
Comme par exemple.
Le fait qu'à l'heure actuelle, je puisse participer à un projet de recherche auquel j'ai postulé, je pense que ça a aussi joué en ma faveur. Je travaille sur un projet de recherche assez précis qui concerne l'élaboration de recommandations de réadaptation auprès des patients post-AVC. C'est un projet collaboratif avec d'autres hôpitaux universitaires. On essaye aussi de mettre en place un autre projet qui puisse être la création d'un nouveau trajet de soins pour les patients post-AVC en téléréhabilitation, et donc le développement d'une application sur smartphone pour les patients post-AVC aussi, qui puisse compléter la revalidation que les personnes reçoivent en institution de soins en Belgique.
Qu'est-ce qui t'attire dans la recherche ?
C'est un travail d'équipe, c'est un travail très stimulant parce que c'est un travail intellectuel, mais du coup qui se combine bien aussi avec ce que moi je fais puisque c'est un métier assez pratique. Et c'est enrichissant tant encore une fois sur le plan des connaissances théoriques et que sur le plan des connaissances entre guillemets de soi-même.
Ça fait clairement du sens dans ta carrière de travailler en milieu hospitalier, de faire ce master en santé publique et de travailler dans la recherche grâce au fait aussi que tu travailles dans un hôpital universitaire. Est-ce que le fait de travailler dans un hôpital universitaire, justement, est vraiment différent que dans un autre hôpital de ce que tu entends de confrères d'autres milieux hospitaliers?
Ah si, il y a plein de spécificités. Je pense que ça doit aussi être la même chose dans les autres institutions, mais je trouve qu'on nous pousse vraiment à viser l'excellence, mais ce qui me paraît logique vu qu'on soigne des personnes et on travaille en équipe, donc c'est pour ça que je ne vois pas vraiment comment on ne pourrait pas le faire ailleurs. Après, je trouve qu'en milieu universitaire, ils mettent encore peut-être à mon avis plus l'accent là-dessus, sur notre formation, pouvoir rester à l'ordre du jour par rapport aux nouveautés qu'on peut proposer aux patients. Continuer à améliorer les soins, la continuité des soins, la qualité des soins avec des projets d'équipe ou justement l'élaboration de projets comme celui de la téléréhabilitation où on essaye de développer des choses, on réfléchit à comment ça pourrait être fait, on essaye d'avoir des subsides justement, de faire des projets de plus grande ampleur. Ça, je pense pas que ça soit vraiment fait dans les milieux non universitaires.
Et qu'est-ce que tu as appris finalement sur toi depuis que tu travailles? Tu as l'impression qu'il y a des traits de caractère qui ont évolué?
J'ai surtout développé une facilité à poser des questions aux personnes et à ne pas être gênée par rapport à ça. Parce que c'est vrai que nous, auprès de nos patients, mais dès qu'on les rencontre, on n'a pas peur de leur demander mais d'où ils viennent, où ils habitent, avec qui, comment est leur maison, comment ils font leur soins personnels. Enfin, c'est directement très intrusif. Et c'est vrai que parfois, mes amis ou mes proches me font la réflexion en disant « Matt, t'es gênante parce que quand je rencontre des gens, je suis en mode « Ah, et tes parents sont séparés et ils vivent où et toi, t'habites où hein? Ok, c'est un appart et t'habites avec qui hein? Et ça va avec ta copine, ça se passe bien hein? Et un tel, et tu fais quoi? Et au boulot, ça va, t'aimes bien? » Et je suis fort intrusive comme ça.
Professionnelle.
Ouais. Enfin, je suis là, il faut que je me calme, mais j'aime bien un peu tout savoir sur la personne parce que quand nous, en tant qu'ergo, on accompagne nos patients, on doit tout savoir sur eux, mais c'est parce qu'on est leur thérapeute. Et c'est vrai que quand moi, je rencontre des gens pour la première fois, je suis pas obligée de tout savoir sur eux, sauf que moi, j'ai l'impression que ben voilà, ça j'avais un peu un mix ergo et Mathilde et parfois les gens me disent Mathilde pose plein de questions, elle a envie de tout savoir. Je suis peut-être un peu trop curieuse.
Et t'as envie justement d'aider tous les gens que tu croises maintenant? Spécialement
non. J'espère que j'aide mes patients, mais c'est surtout eux qui s'aident tout seuls puisque nous on est là pour les accompagner à voir quelles possibilités de décision ils peuvent prendre ou comment améliorer leur vie, mais on essaye surtout de les rendre les plus autonomes possibles, que ça soit dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans les décisions qu'ils prennent au quotidien. Et on n'essaye pas de les rendre dépendants de nous, donc on essaye que ça soit aussi dans leur prise d'initiative, dans leur prise de décision, qu'ils fassent tout seuls. Une personne qui saurait plus faire une activité du quotidien, par exemple... ouvrir un pot de confiture, il ne sait pas l'utiliser parce qu'il n'a plus du tout l'utilisation d'un de ses deux bras, donc impossible d'ouvrir un pot de confiture à une main. Et bien nous, en tant que thérapeute, on a déjà la solution dans notre tête en se disant il faut qu'il utilise cette technique-là ou cette technique-là ou cette stratégie-ci. Mais à la place de dire au patient vous allez faire comme ça va fonctionner, avec lui on prend le temps d'un peu décortiquer ce qui est difficile et de se dire ben, quelles pourraient être les solutions et d'essayer avec lui un peu par essai erreur pour que finalement la personne, c'est un peu parfois ce qu'on dit avec mes collègues genre la manipulation, je pense que c'est elle qui a trouvé la solution, la stratégie à utiliser, puis l'apprivoise plus facilement et puisse la transférer dans ses activités du quotidien Ça va aussi permettre à la personne, la prochaine fois qu'elle rencontre une difficulté où on sera peut-être pas à côté d'elle, bah, de se dire, ok, entre guillemets, mon ergo, elle a fait comment? On avait analysé ensemble ce qui était difficile, donc c'est ce que je vais faire maintenant pour ma difficulté, et puis elle-même trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est ça aussi, rendre le patient autonome. Ça me fait penser à une formation que justement je suis à l'heure actuelle à l'Université de Montréal, qui est tout à fait une approche de pouvoir rendre la personne, on dit un peu empowerment au niveau de ses prises de décision. C'est ça qui est chouette aussi avec, avec notre métier, c'est qu'on peut continuer à se former en continu.
Parce que j'imagine que c'est un métier qui évolue aussi.
C'est un métier qui
d'année
évolue.
D'année en année. Et donc, ouais. Des techniques peut-être nouvelles, des recherches qui sont faites, tu en fais partie. Comment est-ce qu'on vous conseille au niveau de la formation continue? C'est toi qui décides, tiens, c'est ça qui m'intéresse, je vais suivre ça comme formation. Vous avez des guidelines à suivre?
C'est dommage, mais une ergo en Belgique, elle pourrait ne pas se former et continuer à pratiquer, ce que je trouve un peu aberrant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce n'est pas le cas pour les kinés et les autres professions de la santé, je pense. Mais j'espère que ça va aussi évoluer dans le futur. Donc, on choisit les formations auxquelles on veut participer. Après, je pense que ça, c'est aussi un des atouts du milieu universitaire, c'est qu'il y a déjà une série de formations auxquelles on peut avoir accès qui sont parfois plus petites, comme des interventions de professionnels qui sont spécialisés dans un domaine ou un autre au sein des cliniques auxquelles nous, on peut facilement s'inscrire sur un temps de midi ou sur une fin de journée. Et puis, il y a les formations auxquelles nous, on peut participer et alors faire une demande au sein de notre secteur pour être financé ou la financer soi-même.
Qu'est-ce qui te plaît autant dans ton métier ?
Mais ce qui me plaît autant, c'est la richesse des échanges humains. Et le fait que ça soit quand même combiné avec des challenges au quotidien, et même si c'est un métier très pratique, il faut quand même réfléchir et pas faire des choses de manière automatique. En tout cas, comment moi, je vis le métier d'ergo. Enfin, je trouve ça génial de se dire qu'on accompagne les personnes à être plus autonomes et à améliorer leur qualité de vie dans les soins personnels. Et on a des relations thérapeutiques, mais on essaye de les rendre les plus qualitatives possibles. Et ça, c'est énorme au quotidien, je trouve. Aussi, la gratitude des personnes que nous, on accompagne. Elles nous offrent beaucoup de chocolat. Mais ils offrent aussi beaucoup de retours positifs, pas toujours positifs évidemment, mais comme on s'investit aussi auprès de nos personnes et qu'on essaie tout le temps de fournir le meilleur de nous-mêmes, quand on a des retours négatifs, moi je trouve que c'est super difficile à vivre en tant que personne et pour l'équipe. Et moi j'ai déjà eu des moments pas faciles non plus par rapport à ça.
Et du coup, dans ce genre de situation, tu gères comment l'agressivité ou le non-respect de tes patients ?
Sur le moment, moi, quand ça se passe comme ça, alors ce qui m'aide, moi, beaucoup avec les patients, et ça, j'ai appris aussi, je pense, à le faire grâce à mes collègues et grâce à mon expérience qui est très petite, c'est de verbaliser aux patients ce qui est difficile. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de stagiaires qui nous disent, par exemple, « Oh, j'arrive pas avec ce patient. » Par exemple, j'invente, je suis en séance avec le patient et il utilise tout le temps son téléphone. Enfin, ça me gêne, il fait pas les exercices, j'arrive pas à comment faire. Et moi, c'est ce que je dis souvent à mes stagiaires. Je dis, verbalise ce que tu ressens, entre guillemets, en disant au patient, écoutez, je peux pas vous proposer une activité si vous êtes sur votre téléphone. Moi, ça me dérange en tant que stagiaire. Et d'expliquer au patient, vous le faites probablement parce que vous pensez que je suis stagiaire et que du coup, j'aurais du mal à remettre le cadre. Moi, je sais pas comment m'y prendre avec vous et verbaliser ça.
Et comment est-ce que toi, tu gères tes propres émotions quand
ça
va trop
parfois, loin. Je les gère pas. Hein. Je pense à une situation avec un patient vraiment auprès duquel, on s'investit auprès de tous les patients, mais donc auprès duquel j'avais l'impression de m'être investi dans son traitement. Donc, c'est pas investi personnellement, c'est investi professionnellement, quoi, évidemment. Et il faisait des retours assez négatifs et beaucoup de reproches sur des choses que nous, en tant que thérapeutes, on n'avait pas l'impression qu'on aurait pu anticiper. Et moi, ça a été dur, quoi. Je pense pas que j'ai... Enfin, à ce moment-là, j'ai craqué, mais pas devant lui, mais il a vu que ça allait pas, parce qu'ils nous connaissent aussi souvent très bien, et quand ils vont trop loin, ils le sentent. Et après, moi, je lui ai dit, on arrête, vous pouvez rentrer et tout, je sais plus. Et puis après, j'ai pleuré. Et ça, le patient, il l'a ressenti. Après, il m'a envoyé un mail en s'excusant. Le lendemain, il est arrivé. C'est plus jamais arrivé, d'ailleurs, avec lui.
Et en 3 ans de carrière, tu as l'impression d'avoir appris justement à te blinder ?
J'ai appris à me blinder auprès des patients, mais pas que, aussi auprès des collègues. Parce que finalement, être ergo, c'est savoir échanger beaucoup, beaucoup avec les patients, mais aussi beaucoup, beaucoup avec les collègues. Et on travaille énormément en équipe. Donc pas seulement avec des gens avec lesquels on serait amené à bien s'entendre, entre guillemets. Et d'ailleurs, moi, c'est ça que je trouvais ça dommage, entre guillemets, dans la formation. C'est que quand on fait des travaux de groupe, on peut très souvent choisir son groupe. Et donc, automatiquement, on choisit que des personnes avec lesquelles on s'entend bien, que ça soit en ergo ou en master. Et puis, quand on commence à travailler, on a des travaux de groupe qui ne sont pas des travaux de groupe, qui sont des projets d'équipe, parfois avec des personnes auxquelles on n'aurait jamais été spontanément dans le groupe. Et parfois, ça ne se passe pas bien et parfois, c'est difficile. Et donc, je me suis dit... en vrai, si un jour je travaille dans l'enseignement, je ferai la prof pas cool, mais j'imposerai les groupes à mes élèves, pas pour les frustrer, mais pour qu'ils soient habitués à travailler avec des gens avec lesquels on n'aurait pas du tout été naturellement vers eux.
Et est-ce que les ergos en particulier sont les professions dont on parle moins dans les hôpitaux ou justement l'élément du groupe vers qui on va pas spontanément ?
Je pense qu'en tout cas, on n'est pas l'élément dont on parle le plus. Je pense qu'il y a eu des super chouettes progrès ces dernières années par rapport à la connaissance et à la reconnaissance que nous, on a auprès des autres membres de l'équipe. Il y en a auprès desquels on doit quand même encore vachement faire preuve, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, en tant qu'ergothérapeute, être le plus qualitatif possible auprès des personnes auprès desquelles on doit faire preuve encore, justement.
T'as ce sentiment-là de devoir te battre pour ta profession ?
Moi, j'ai de la chance que j'ai pas l'impression qu'on doit se battre. En tout cas, nous, on travaille beaucoup au sein des cliniques avec les médecins de médecine physique. Et eux, ils sont tout à fait conscients et de l'importance de notre rôle et de l'indispensabilité qu'on a auprès des patients. Mais par contre, quand on travaille auprès des spécialistes comme les médecins neurologues, justement, parfois, il y en a certains qui sont pas tout à fait... c'est surtout au courant de ce qu'on pourrait apporter aux patients, mais donc je trouve ça chouette aussi comme mission de notre part de leur montrer ce que nous, on peut apporter en plus dans leur traitement et comme vision. Par exemple, on a des assistants, au début, ils font moins appel à nous, on voit que c'est surtout nous qui devons aller vers eux pour leur faire part de nos observations auprès des patients, etc. Et puis au cours de la collaboration, on voit qu'à la fin, c'est eux qui nous font « Et alors, comment ça s'est passé ce matin avec ce patient à la douche ? Ça a été ? T'as dû l'aider ou pas ? Comment ça s'est passé ?» Donc ça, c'est chouette, je trouve. C'est aussi à nous à faire changer les mentalités et à leur faire découvrir notre métier. Et c'est vrai que parfois, c'est blasant, surtout si c'est un collègue avec lequel tu travailles depuis un moment et qui te pose des questions en mode « Mais en fait, tu fais quoi ?» T'es là en mode « Je sais pas, on travaille depuis un an, t'as pas encore remarqué que ce que je faisais. » Mais après, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment leur en vouloir.
Parce que c'est quoi les clichés ? Le cliché de l'ergo qui va t'énerver, justement, quand on te dit ça ?
Franchement, moi, je dois tout le temps expliquer ce que c'est l'ergo, quoi. Mais tout le temps. Moi, j'aime bien, heureusement, mon métier, donc j'aime bien en parler. Mais il y a des fois où je suis hyper blasée, quoi. Genre, parfois, je suis avec des potes et je dis mon métier parce qu'on me le demande. Et je dis ergo. Et la personne dit « Ah, c'est quoi ?» Et je suis là. Et du coup, j'ai une pote qui prend le relais et qui explique ma place. Parce que c'est aussi, c'est tellement divers comme métier. Et en fait, c'est aussi ça mon problème. C'est que tellement que j'aime bien mon métier, j'ai pas envie, genre, juste de lâcher une phrase en disant « Ouais, on accompagne des personnes avec une perte d'autonomie. » J'ai envie de dire « Et on travaille là, et on travaille là, et on fait ci, et on fait ça. » Et alors, ça part pendant des heures. Et après, justement, mes proches, ça les blase. Ceux qui ont déjà entendu l'explication 15 fois sont en mode « Mathilde, réexplique, c'est quoi l'ergo ?»
C'est bien, tu fais la...
La promotion
du métier, tu le fais très bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux étudiants qui se posent la question, comme toi à 18 ans, de qu'est-ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont faire et qui pourraient peut-être être intéressés par ce métier ?
Si tu fais ergothérapeute, tu ne dois pas t'attendre à faire autre chose que de l'ergothérapie une fois que tu auras fini ta formation. Donc c'est un choix qui doit être réfléchi et je pense que la meilleure manière d'avoir bien compris le rôle de l'ergo, c'est essayer d'aller en observer sur le terrain. Ou alors de discuter avec des ergos pour voir comment ça se passe.
Et selon toi, quel est l'avenir du métier d'ergothérapeute justement ? Est-ce que tu vois une évolution ? Enfin, tu le disais tout à l'heure, tu vois une évolution dans le métier. Comment est-ce que toi, tu as envie de faire évoluer ton métier ?
Moi, ce que j'espère pour notre profession dans les prochaines années, ce serait qu'on s'investisse et on se fasse justement une place dans tout ce qui est recherche scientifique en Belgique, comme les ergos au Canada, aux États-Unis, en France, le font plus que nous. Et ça, je pense que ça va fonctionner grâce à des ergos qui vont faire un master en santé publique et qui vont s'intéresser après à le mettre à profit de la recherche. Après, il y a plein de choses à faire en ergothérapie, comme davantage développer l'ergo au domicile des personnes. Ça, je pense que ça va aussi être vachement évolué dans les prochaines années. C'est déjà en fait ce qui occupe à se passer.
D'après toi, une société justement sans ergothérapeute, ça donnerait quoi?
Ben, selon moi, ça donnerait une société avec un ensemble de personnes en situation de handicap qui auraient pu être évitées. Et aussi, par exemple, moi, je travaille dans un secteur bien précis, mais il y a des autres ergos qui travaillent, par exemple, auprès de personnes souffrant de handicap sourd ou aveugle ou en pédiatrie. Enfin, je pense que moi, là, au long de mon témoignage, j'ai très fort ciblé au milieu hospitalier, à la neuro, aux adultes, mais il y a plein d'autres ergos qui font un boulot incroyable auprès de personnes qui rencontrent des situations de handicap tout à fait différentes avec celles que moi je rencontre. Et donc je pense qu'une société sans ergo, ce serait une société avec davantage de difficultés pour des personnes en souffrance par rapport à leur handicap.
Et qu'est-ce qui t'intéresse tellement dans le fait d'aider l'autre?
Peut-être un peu me sentir utile. Mais ça, moi, je l'ai fort, par exemple. Mais je pense qu'on est tous aussi un peu comme ça en tant qu'être humain, aussi à vouloir aider les autres, à être là.
Pas tous, justement.
Mais moi, j'ai l'impression qu'on est tous un peu comme ça. Enfin, c'est vrai que, par exemple, moi, je me serais pas du tout vu faire un métier qui est pas dans l'aide à l'autre. Moi, ce que j'aime bien, je crois, ouais, c'est me sentir utile, avoir un retour de la personne ou se dire, ben, on a pu aider quelqu'un, enfin c'est chouette, je trouve que c'est un chouette ressenti.
Où est-ce que tu te verrais dans 20 ans?
J'ai du mal à m'imaginer où je me verrais dans 20 ans. J'espère en tout cas que j'arriverai toujours à m'épanouir. Et j'espère aussi que si je m'épanouis plus, j'aurai osé et réussi à prendre la décision de me réorienter, que ce soit vers un autre métier ou vers une autre institution, parce que ça me frustrait trop. J'ai l'impression parfois de travailler avec des collègues qui ont besoin de changement, mais qui ont peur du changement ou qui n'arrivent pas à changer. Et j'espère que je ne me retrouverai jamais dans cette situation. Parce que je ne suis pas sûre que dans 20 ans, je serai toujours à faire la même chose auprès de mes patients. Peut-être que je ne travaillerai plus comme ergothérapeute, mais ça, j'ai du mal à y croire. Ou peut-être que je ferai autre chose. Mais toujours en contact, en tout cas, avec des gens.
Tu aurais un livre ou un film, quelque chose qui t'a inspiré et qui pourrait inspirer d'autres personnes par rapport à ton métier ou le secteur dans lequel tu travailles?
Mais moi, je trouve qu'on n'est pas fort représenté justement dans les films, parce qu'il y a un film qui est sorti, Patient, dans lequel parfois on mentionne l'ergo, mais bon, pour moi, pas assez. D'ailleurs, avec mes collègues, au début, on était « Ah ouais, trop bien !» Mais en fait, moi, je trouve qu'on est clairement sous-représenté. J'ai lu un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelle « Les Gratitudes ». C'est un livre qui parle d'une personne qui est en maison de repos et qui démarre une démence qui lui fait perdre l'utilisation des mots. Et elle s'en rend compte, elle est accompagnée d'une logopède, donc même pas d'une ergo. Mais c'est typiquement aussi la personne qui souffre du coup, par la même occasion, entre guillemets, d'une perte d'autonomie dans ses activités de tous les jours. Et ça s'appelle les gratitudes parce que la personne concernée dans le livre, elle essaye avant de perdre complètement l'utilisation de son vocabulaire, de remercier toutes les personnes qu'elle aurait envie de remercier.
On mettra le lien dans le podcast, alors merci. Ce qui est assez touchant chez toi, c'est le lien que tu as avec tes patients. C'est ton implication dans ce qu'ils vivent, mais surtout dans ce qu'ils peuvent ressentir finalement dans leur perte d'autonomie. Je te sens très concernée par leur évolution.
Ça m'est arrivé justement de recroiser un patient quelques semaines après notre suivi qui avait repris le boulot. Et ça, moi, quand je le vois travailler sur son échelle, je suis trop fière de lui parce qu'on a entraîné plein de fois cette situation, qu'on en a discuté, que ça a été plein d'échanges avec sa famille, avec lui, avec les médecins. Et là, de le voir épanoui dans son boulot avec ses collègues, parfois, moi, je suis là en mode « Bonjour !» et Monsieur Intel, et lui, il est en mode « Bonjour !» en mode « C'est mon ergo, la grosse relou qui est trop fière de moi parce que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. » Moi, je suis en mode « Ouais !» Ça, franchement, pour moi, c'est un épanouissement total, quoi.
Mille merci, Mathilde, pour ce chouette témoignage.
Je te souhaite
une belle carrière et elle a déjà bien commencé. Et puis, bravo pour ton implication.
Merci à vous, c'était chouette. Merci de vous intéresser à notre métier.
Un grand merci à toi. À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout.
Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aime-mon-métier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.